Les As de la CoPro, l'émission qui rebat les cartes de la copropriété. Présentée par Gilles Frémont, président de l'ANGC, l'Association nationale des gestionnaires de copropriété, sur Radio Immo.
Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans votre émission Les As de la CoPro. C'est la troisième émission. J'espère que ça vous plaît, que les deux premières vous ont plu. Je retrouve les mêmes invités, les mêmes experts, les mêmes professionnels. Ils ont passé un bon été. Bon, on est déjà en octobre. L'été est loin. Je commence le tour de table par Alexis De Coster. Bonjour Alexis.
Bonjour Gilles.
Alors, je rappelle, vous êtes directeur métier, syndic, administrateur de biens au Crédit Agricole Services Immobiliers.
Tout à fait.
Voilà, vous avez un super look. Pierre-Edouard Lagrelais. Bonjour Pierre-Edouard.
Bonjour Gilles.
Alors Pierre-Edouard Lagrelais, merci encore d'être là. Vous êtes merci avocat, barreau de Paris, barreau de Bordeaux. Je rappelle encore une fois, à un moment donné j'arrêterai, mais je le rappelle quand même, vous êtes l'auteur du livre « Syndic de copropriété » paru chez Edilex. À ma gauche, j'ai Marie-Hélène Leca. Bonjour Marie-Hélène.
Bonjour Gilles, bonjour à toutes et tous.
Marie-Hélène, vous êtes dirigeante cabinet Auralia,
hein,
à Paris.
À Paris 17.
Voilà, Paris 17. Et à votre gauche, on a Mathieu Mialaret. Bonjour Mathieu.
Bonjour Gilles, bonjour à tous.
Mathieu, directeur métier, syndic et administrateur de biens, gestion locative, chez Foncia.
Ça.
Voilà. Bah, écoutez, moi je propose qu'on a. Alors vous avez une pomme, ça c'est très bien, c'est très bon pour la santé. On en a pour une heure. On a pas mal de choses à voir et on va démarrer tout de suite par la première séquence, le point juridique.
Les As de la CoPro, le point juridique.
Le point juridique, on va commencer avec Alexis. On va essayer de passer un petit peu de temps là-dessus parce que le problème est un peu complexe. On parle de la mise en copropriété d'un immeuble neuf. On parle de la VEFA, vente en l'état futur d'achèvement. Il y a des notions. Alors, il y a eu une réforme, hein, la loi Elan. Il y a un article 1-1 que je vais peut-être lire hein, pour bien cadrer le débat. Article 1-1 de la loi de 65 pour les immeubles à construire. Donc les immeubles neufs, hein, le fonctionnement de la copropriété découlant de la personnalité morale du syndicat des copropriétaires prend effet lors de la livraison du premier lot. Donc l'enjeu, c'est de savoir à quel moment tout ça se coordonne. Il y a différentes étapes, comme une frise chronologique. À quel moment la copropriété fonctionne, à quel moment la personnalité morale du syndicat naît, prend naissance, puisque dans un immeuble bâti, elle prend naissance à la première mutation. Or là, on a un écart entre la première mutation et la première livraison, une sorte de zone grise. Alors, pour vous, à quel moment la personnalité morale du syndicat des copropriétaires naît ?
Alors, vaste débat. Il faut savoir que, alors, certains diront pas de géant sur ce sujet. On aurait attendu près de 50 ans pour connaître finalement la date de naissance d'un syndicat de copropriétaires. D'autres diront qu'effectivement, la rédaction du texte telle qu'elle existe aujourd'hui ne fait que poser plus de questions qu'elle n'en résout. Moi, je suis plutôt parti du premier groupe. La difficulté, c'est ce problème entre le carrefour entre le droit de la construction, le droit de la vente et le droit de la copropriété. La VEFA, ça fait partie des ventes d'immeubles à construire, hein, vente à terme et la VEFA. Et depuis très très longtemps, on se posait la question de la date de naissance du syndicat des copropriétaires, qui est la base de tout, puisque c'est à partir de cela qu'un syndic existe et qu'un syndicat existe. Alors, juste un petit peu d'histoire. Il faut savoir qu'à l'époque, en 1965, on avait un troisième alinéa de l'article 1 hein, qui indiquait que le statut de la copropriété devait s'appliquer pendant la période de construction de l'immeuble. Ça a été retiré sous la commission des lois, puisque le sujet devait être reporté sur une future loi qui est apparue en 1967 sur la vente d'immeubles à construire.
Donc depuis 1965, on se pose la question.
Et donc du coup, ce sujet sur le statut de la copropriété est passé à la trappe. Alors, évidemment, les professionnels que nous sommes, on n'a pas entendu 50 ans pour déterminer et prendre en charge la gestion des immeubles neufs. Pour autant, on était un petit peu sur une zone de crête. On avait quelques difficultés pour connaître le démarrage de notre mission. Et surtout pour les copropriétaires, cette fameuse, vous savez, c'est la première difficulté, c'est à qui incombe la dette, les fameuses premières provisions.
À partir de quand je paye mes charges.
Difficulté.
Entre le promoteur et le.
Plutôt tendance. Alors, c'est vrai qu'on a une notion, la première livraison, c'est un peu un étonnant d'avoir cette notion de livraison qui n'intéresse que le promoteur et, alors je vais utiliser un terme, le quasi-copropriétaire.
Et là, on est dans le droit de la vente.
Ou propriétaire en devenir. C'est-à-dire qu'effectivement, ça pose toute la notion de quoi est propriétaire un futur copropriétaire en matière de VFA. Il y a un auteur qui parlait de propriété désincarnée, puisqu'effectivement, tous les attributs, l'usus, le fructus et l'abusus, le propriétaire ou le futur copropriétaire ne les a pas pendant toute cette période de construction. Et ça n'est que l'acte de livraison. Alors c'est vrai que c'est étonnant d'avoir cette notion de livraison qui est la seule hein, dans la loi de 65, et qui n'intéresse pas le syndicat, uniquement un acte entre un promoteur et un acquéreur. Finalement, c'est l'acte de livraison qui reconstitue tous les attributs de la propriété et qui permet du coup à cette toute première livraison, d'avoir deux copropriétaires différents. C'est en tout cas, moi, c'est la lecture que j'en... Et donc la naissance. Alors, c'est vrai qu'on aurait pu imaginer une première rédaction qui avait été émise par l'association Renac Capitan, c'était de dire que cette personne morale, elle naît lors de la livraison du premier lot, lorsque les lots font l'objet d'une vente d'immeuble à construire. Peut-être que la rédaction était peut-être un peu plus,
au moins, c'était explicite.
Un peu plus simple. Là, effectivement, alors ça, c'est toute la richesse de la langue française. Hein. Pour moi, ça n'est que de la déduction. Alors, effectivement, ça aurait pu être tourné dans l'autre sens. Mais le fonctionnement, oui, par définition, il découle de la personnalité morale. C'est une déduction. Et cette personnalité morale, elle n'est quand ? À la livraison du tout premier lot. Alors après, du coup, ça n'est pas pour autant que ça ne pose pas plein de questions en pratique sur le début de la mission du syndic provisoire. Et ça, c'est peut-être un pan qui a été oublié, que certains auteurs demandaient, le véritable statut du syndic provisoire. Puisqu'aujourd'hui, on le voit en pratique, alors sauf...
Oui, parce que je rappelle à nos auditeurs que le syndic provisoire intervient, lui, il est là avant la première livraison.
Alors, il est là. Alors ça, c'est toute la difficulté aujourd'hui. C'est que quand on voit, alors, on a certains syndics qui préparent très en amont, hein, qui font des réunions préparatoire à la future Assemblée Générale, ce qui permet déjà de connaître les futurs copropriétaires, de voir ceux qui auront une appétence à être au Conseil syndical.
Pour autant, la loi nous dit que le syndicat ne fonctionne pas encore. Donc il est là, mais il n'est pas censé fonctionner.
Il n'est pas censé fonctionner.
Il n'est pas censé agir.
Et c'est vrai que notre mission, comme on n'a pas de véritable statut du syndic provisoire, hein, avec toutes les incidences que ça opère, je rappelle que le syndic provisoire est quand même le banquier du syndicat de copropriétaires. C'est quand même inscrit dans la loi, et ça fait partie des éléments que je ne trouve pas forcément très normal. Mais donc, du coup, ça pose toute cette question de la mise en... du déroulé de la première assemblée générale.
Et d'ailleurs, la loi, je crois que c'est à l'article 17, dit que le choix du premier syndic lors de l'Assemblée générale constituante, le conseil syndical doit mettre en concurrence. Or, il n'y a pas de conseil syndical puisque... avant la première AG. Donc, il y a un problème dans les textes eux-mêmes.
Tout à fait. Et donc, ça impose... Alors, vous savez, ça fait 50 ans qu'on reçoit... Alors, j'étais pas né il y a 50 ans, mais ça fait 50 ans, pareil, qu'on reçoit des notifications de transfert de propriété sous visa des articles 6 et 7 du décret de 67, pendant la période de construction. Mais ça n'est pas applicable, puisque le syndicat n'existe pas. Donc, voilà, c'est toute cette problématique qui se pose. Et donc, du coup, en pratique, ça oblige, du coup, de bien s'organiser très en amont pour convoquer cette première assemblée.
Alors, effectivement, on est un peu dans cette zone grise, Mathieu, entre la première mutation qui a pu avoir lieu il y a quelques années avant la première livraison. Hein. La première vente sur plan peut intervenir 4-5 ans avant la première livraison. Le syndic provisoire, il est nommé par le promoteur, il est là. Bon, le syndicat ne fonctionne pas encore, donc il n'est pas censé agir. Je ne parle même pas de sa rémunération. Qu'est-ce qui se passe dans cette période grise, et notamment par rapport à la convocation de la première Assemblée Générale, finalement, ça veut dire qu'il faut attendre la première livraison pour le faire ?
Oui, s'il y a une chose qui paraît très claire, c'est que finalement, le syndic provisoire, il n'existe pas tant que la première livraison n'a pas été faite. Alors, il existe sur le papier, mais sa nomination n'a strictement aucun effet jusqu'à la première livraison. Alors, ça n'empêche pas, généralement, dans un premier temps, d'essayer d'avoir un petit rôle de conseil vis-à-vis du promoteur, Souvent, quand il est désigné très en amont, il peut donner son avis sur l'organisation du syndicat, sur le règlement de co. Il peut aider le promoteur à définir un premier budget, une estimation de charge, ce qui va aider
en fait,
le promoteur.
En fait, il est assistant du promoteur.
Tout à fait.
Voilà, dans les faits, c'est ce qui se passe.
Donc, il faudrait qu'il soit payé par le promoteur.
Ça, c'est un autre sujet. c'est un autre sujet. Mais dans les faits, c'est souvent ce qui se passe. Mais effectivement, pour le compte du syndicat des copropriétaires, il ne commence à intervenir qu'à compter de la première livraison. Ce qui pose pas mal de problèmes pratiques, puisque s'il ne peut convoquer l'Assemblée générale qu'à compter de la première livraison, ça veut dire que cette Assemblée générale ne se tiendra dans les faits qu'un mois après la première livraison. Or, dans ce premier mois, il se passe quantité de choses pour lesquelles il est fondamental d'avoir l'avis de copropriétaire, l'avis d'un conseil syndical, ou il serait fondamental d'avoir l'avis d'un conseil syndical qui, par définition, sera nommé que dans un mois. Donc c'est pour ça, Alexis le disait, la pratique, finalement, commence de plus en plus à faire que le futur syndic provisoire organise des réunions informelles, qu'on appelle des pré-AG, mais qui sont en fait des réunions informelles, de manière à ce que les copropriétaires déjà se rencontrent, de manière à identifier peut-être des futurs membres du conseil syndical, c'est-à-dire des personnes qui se présenteront au conseil syndical et avec qui on pourra quand même collaborer au début, notamment à l'occasion de la livraison des parties communes, voilà, qui est un moment extrêmement important, hein, puisque c'est le moment où le promoteur va livrer.
Alors, livraison des parties communes, là, c'est pareil. Est-ce qu'on parle de livraison de parties communes ou d'une visite contradictoire? Parce que théoriquement, la livraison des parties communes, elle se fait, puisque c'est le droit de la vente, au moment de chaque livraison de parties privatives.
Elle devrait, oui, juridiquement, oui. Potentiellement, on pourrait imaginer un empilement, effectivement, sur un petit immeuble, ça pourrait ne pas trop poser de questions, encore que, mais sur les gros ensembles, on pourrait imaginer, enfin, vous imaginez l'empilement de chaque procès-verbaux de réserve de l'appartement et des parties communes faites par chacun des copropriétaires. C'est simplement...
Lorsque l'acquéreur signe son PV de livraison, il doit signer aussi un petit bon pour la livraison des parties communes, théoriquement. Puisque c'est sa cote-part de partie commune.
C'est sa cote-part de partie commune.
Mais Gilles, là, vous êtes sur la théorie, la pratique.
Bah oui.
Juste pour revenir sur ce que disait Mathieu, effectivement, dans le cadre du calendrier, hein, donc, le calendairement, hein, sur les faits, c'est la livraison du premier lot, la convocation de l'Assemblée générale et ensuite la livraison des parties communes.
La visite contradictoire des parties communes. Voilà, on a une petite frise chronologique. C'est vrai que c'est bien de l'avoir en tête.
Dernière chose, quand on parle de livraison, ça obligerait aussi, ce qui n'est pas dans la loi, hein, mais du coup, les promoteurs de notifier au syndic l'ensemble des livraisons programmées. Aujourd'hui, ça n'existe pas.
Non.
Mais il nous faut, nous, pour, en tant que syndic, s'assurer des dates de livraison de chaque partie commune. Notamment, après, il y a toute la difficulté, vous savez, c'est dès lors qu'on aura voté l'Assemblée générale, c'est à qui on envoie les provisions.
Tout à fait.
Il y a l'obligation, il y a la contribution à la dette.
C'est un autre débat, mais un petit mot,
je voudrais quand même entendre Pierre-Édouard sur ce sujet, puis après on enchaîne. L'article 1-1, il est bien rédigé. Elle naît quand, la personne morale du syndicat des copropriétaires? Alors, à la première mutation ou à la première livraison?
C'est difficile à dire avec cet article 1.1 alinéa 2. La difficulté, finalement, c'est que le régime est incomplet et cet article 1.1 devrait être accompagné de plusieurs autres articles qui prévoiraient notamment le régime de fonctionnement du syndicat des copropriétaires dans sa phase de formation. En fait, il nous manque un statut équivalent à celui des sociétés qui nous permettrait d'avoir un syndic provisoire qui prend des actes pour le syndicat en formation, avec éventuellement un mécanisme de ratification comme on connaît en droit des sociétés, et qui permettrait vraiment au syndic provisoire d'exister et de travailler. Et aujourd'hui, le texte n'apporte pas vraiment de solution. En fait, il reprend une solution jurisprudentielle qui était maintenant assez bien établie. Il la traduit plus ou moins bien, parce qu'effectivement, le découlant de la personnalité morale peut être interprété comme ça l'a été par Alexis, mais on peut aussi se dire que si le fonctionnement découle de la personnalité morale, c'est que la personnalité morale préexiste, et ce qui fait qu'il y a sans aller peut-être sur la discorde, mais enfin, en tout cas, il y a des divergences d'interprétation qui font qu'on n'est pas très sûr du sens de ce texte. Donc, non, il n'est pas très bien rédigé, puisqu'il y a un doute qui s'installe, et surtout il manque un régime pour le syndicat en formation qui permettrait une parfaite utilisation de cet article-là.
Là-dessus, je crois qu'on est tous d'accord. Merci pour cet éclairage. Il faut un régime propre aux immeubles en copropriété VEFA. Je propose qu'on passe à la deuxième séquence, la question du copropriétaire.
Les As de la CoPro, la question du copropriétaire.
je m'appelle Daniel Vatter, je suis président du conseil syndical d'un immeuble qui est situé à Paris dans le premier. J'avais une question à poser sur le droit de jouissance privatif sur les parties communes. Je voulais savoir si ce droit de jouissance est vendable. Peut-il faire l'objet d'une contrepartie financière ? Par exemple, un copropriétaire souhaiterait se voir attribuer la jouissance exclusive sur un jardin commun ou une courette commune. Dans ce cas, est-ce que la copropriété peut lui attribuer ce droit moyennant un prix ou une indemnité ?
Alors, question intéressante. On va rappeler avec Alexis, Mathieu, qui souhaitaient intervenir sur cette question, ce qu'est un droit de jouissance privatif sur partie commune, de droit réel. Et la question qui est posée par le copropriétaire, c'est lorsque la copropriété attribue un droit de jouissance en cours de vie de la copropriété. Hein, je ne parle pas à l'origine de l'immeuble. Est-ce qu'elle peut le vendre, tout simplement, comme si elle vendait une partie commune, parce qu'on a pu rencontrer des difficultés. Pierre-Edouard, vous voulez commencer ?
Oui, si vous voulez. Écoutez, Sur le fait que ce soit cessible, je crois qu'il n'y a pas de doute aujourd'hui. Le droit de jouissance privatif est un droit réel perpétuel. Ça a été qualifié comme ça par la Cour de cassation il y a déjà un moment. J'ai un arrêt en tête de 1992. Et puisque c'est un droit réel perpétuel, c'est-à-dire une prérogative d'une personne sur une chose, eh bien, il peut la céder. Il n'y a pas de difficulté. Et même, il peut la prescrire. La Cour de cassation l'a précisé. Ça a été renouvelé encore cette solution assez récemment. Ce qui veut dire qu'un copropriétaire qui n'est pas titulaire du droit de jouissance, peut le devenir par l'effet du temps, c'est-à-dire par application des dispositions de l'article 2261 du Code civil, s'il se comporte comme propriétaire, donc là en tant que titulaire du droit de jouissance, de manière paisible, continue, et de façon non contestée, il pourra l'acquérir par prescription. Donc c'est un droit qui peut tout à fait être acquis, cédé. Aucune, à mon sens, difficulté là-dessus. Et de ce fait, eh bien, il peut y avoir une valorisation, comme tout droit réel, et on peut l'évaluer. D'ailleurs, il y a des experts qui font ça très bien, des experts fonciers, à qui on va demander une évaluation de la valeur du droit, et on va pouvoir, comme ça, le céder, soit parce que c'est un copropriétaire qui veut le vendre à un autre copropriétaire, soit parce que c'est le syndicat qui veut créer le droit en le prélevant, sur les parties communes et en le cédant à un copropriétaire, type assez classique de projet de réalisation d'une terrasse en toiture, d'une forme de privatisation d'une cour ou d'un jardin, et se pose la question du prix et aussi du calcul des tantièmes en fonction de l'usage qu'il va pouvoir en tirer.
Parce que c'est vrai, Mathieu, souvent les copropriétaires ne veulent pas, demandent pas une cession de partie commune, ils demandent l'attribution d'un droit de jouissance parce qu'ils savent, hein, c'est un peu la pratique, qu'il n'y aura pas de prix, en tout cas pas le même que si on achetait en pleine propriété.
Alors
On en est où ?
C'est peut-être pas la raison, effectivement, on pourrait se poser la question, pourquoi ne pas créer un lot privatif et vendre carrément la propriété d'un lot privatif. Pourquoi passer par un régime un peu alambiqué et moins connu de jouissance privative ? Je pense que ce n'est pas lié à la valorisation, hein, parce que comme le dit Pierre-Edouard, il n'y a aucun problème pour valoriser un droit de jouissance, et donc à l'ensemble des copropriétaires de fixer le prix le plus intéressant pour eux, qui sera débattu en AG. Mais y a une différence très profonde entre la vente et la jouissance privative, c'est que physiquement, techniquement, la partie d'immeuble sur lequel le droit de jouissance est cédé reste partie commune. Si on prend le cas d'une toiture terrasse et donc de la jouissance de l'utilisation d'une toiture terrasse, c'est quand même important pour le syndicat des copropriétaires de rester propriétaire du toit de l'immeuble, de décider quand il l'entretiendra, comment il l'entretiendra, quand il fera des travaux, enfin voilà, d'avoir la maîtrise finalement du bâti. Et ça, c'est quelque chose de fondamental qui fait toute la différence, finalement, entre un droit de jouissance et un droit de propriété.
Parce que c'est vrai que le droit de jouissance privative sur partie commune, c'est un peu comme la VEFA, c'est de la jurisprudence qui a été consacrée avec la loi Elan. On a une définition aujourd'hui, l'article 6-3 de la loi de 65, je cite, « Les parties communes à jouissance privative sont les parties communes affectées à l'usage ou à l'utilité exclusive d'un lot. Elles appartiennent indivisiblement à tous les copropriétaires. » C'est vrai que ce concept est un peu un ovni, propre à la copropriété. On ne le trouve pas dans le code civil. Ce n'est pas un bail, ce n'est pas une occupation précaire, c'est pas une vente, on l'a bien dit, c'est propre à la copropriété et on a parfois un peu du mal à le définir. Alors il y a les droits et les obligations du titulaire droit de jouissance et il y a cette histoire de prix. D'ailleurs, on dit un prix ou une indemnité ?
Bah, a priori, on dit un prix, c'est un droit réel, on peut vendre un droit réel, et que ce soit un droit de jouissance privative ou un droit de propriété, il ne devrait pas y avoir de différence, enfin, sous le contrôle de Pierre-Édouard qui maîtrise ces sujets bien mieux que moi, mais normalement, il n'y a pas de différence, donc on parle d'un prix et on parle d'une vente.
Donc pas de problème, on peut faire une cession de droit de jouissance sur partie commune et aller voir le notaire et lui dire on a cédé ce droit pour un prix, et voilà le prix. Absolument. Après, la valorisation, c'est autre chose.
Et en gardant à l'esprit, puisque la Cour de cassation l'avait précisé et que ça a été aussi consacré par le texte, que ce droit est un droit accessoire aux parties privatives, enfin, d'abord aux parties communes, et si on le cède aux parties privatives, et qu'il faut donc qu'il soit réuni dans un lot en tant qu'accessoire de parties
rattaché
privatives.
Rattaché à un lot, dis-le.
Et donc, on ne pourrait pas créer un lot
de jouissance
constitué uniquement en partie privative d'un droit de jouissance. Parce que ce lot-là serait nul d'après les dispositions légales et ça poserait un véritable problème de sécurité juridique s'il y avait une cession d'un tel lot. Donc le droit doit être cédé pour intégrer un lot qui préexiste. Ce qui n'est pas sans difficulté parfois avec la publicité foncière, parce qu'ils connaissent assez mal le véhicule qui permet de faire rentrer le droit de jouissance directement dans un lot qui préexiste. Donc on a des discussions parfois un peu épineuses avec le notariat, mais pour la raison de la publicité foncière et qui n'est pas de leur fait, mais qui peut être difficile et qui est la résultante de cette réforme, qui n'est peut-être pas très heureuse d'ailleurs, parce que bon, on digresse un peu, mais sur les places de parking, on avait un certain nombre de syndicats de copropriétaires en France où il y a des lots de copropriété qui sont exclusivement composés d'un droit de jouissance sur le sol pour un emplacement de stationnement.
Les casiers au ski.
Les casiers au ski, il peut y en avoir beaucoup d'exemples, mais les parkings sont très parlants parce que la valeur notamment est importante, même si les casiers au ski, ça a de l'importance, mais les places de parking, c'est vraiment épineux, parce que tous ces lots-là sont éventuellement frappés de nullité. Et c'est là où on voit tout l'intérêt de la mise en conformité élan, parce que ça va peut-être nous permettre de sauver ces lots à des majorités simples. À voir si on peut toujours le faire, parce que ça implique peut-être des cessions. Mais on va digresser beaucoup si on est sur ce terrain-là. Mais il faut faire vraiment attention au véhicule de la cession et effectivement au calcul de la valeur. Parce que s'il n'y en avait pas, il pourrait y avoir des contestations tout à fait fructueuses des copropriétaires qui reprocheraient au syndicat d'avoir cédé un droit de jouissance sans l'avoir valorisé. Puisqu'on le sait, la jurisprudence est claire là-dessus. Pas de cession à titre gratuit. Le syndicat n'a pas vocation à faire don des droits indivis aux copropriétaires en particulier.
Donc pour répondre à ce copropriétaire, oui, la copropriété peut et même doit, comme vous le dites, obtenir une contrepartie financière lorsqu'elle cède un droit de jouissance privatif sur partie commune, qui est différent, hein, je rappelle, du droit de jouissance à titre précaire et à titre personnel, mais là on parle plus de tolérance que de droit. C'est par exemple l'autorisation ponctuelle à une personne bien déterminée de laisser sa voiture dans la cour. Hein. Ça aujourd'hui c'est un droit qui n'existe pas dans la loi mais qui existe toujours en pratique par contre. Donc prudence quand on définit le droit, quand on rédige la résolution, bien indiquer le périmètre du droit et j'invite à consulter le syndic éventuellement à consulter un professionnel du droit, un notaire ou un avocat sur ce sujet là. Je propose qu'on passe à la séquence numéro 3, le métier de syndic.
Les as de la copro, le métier de syndic.
Le métier de syndic, on a une première question, j'aimerais qu'on aborde avec Marie-Hélène pour commencer. On va parler de quelque chose de basique, hein, ce sont les règles de majorité. Les règles de majorité en copropriété, il y en a plusieurs, vous allez nous les rappeler rapidement, de façon très pédagogique, mais on s'aperçoit quand même qu'à un moment donné, quand on rentre dans le détail, ça se complique. La question, c'est les règles de majorité, pourquoi faire simple? Alors déjà, faites-nous un petit rappel sur ces règles de majorité, Marie-Hélène.
Rappel, donc. Trois règles de majorité, l'article 24 qui est la majorité des présents et représentés, l'article 25 qui est la majorité absolue et l'article 26 la majorité des deux tiers. Jusque-là, on pourrait se dire que c'est à peu près simple, que tout a l'air bien, puis on va rentrer un peu dans le cœur du sujet. Donc il y a eu, sur l'article 24, bien sûr, aucun amendement, mais sur l'article 25, il y a eu différentes strates. La rédaction officielle initiale, qui prévoyait deux assemblées. Une première assemblée, si la majorité absolue n'était pas recueillie, on devait convoquer une seconde assemblée et on passait dans une majorité abaissée à la majorité des présents et des représentés, ce qui pouvait aussi présenter des écueils d'être toujours titulaire d'un mandat, bien que ça soit encadré dans des délais pour la reconvocation de cette seconde assemblée. Et puis, on a eu la loi SRU qui a donné pour la première fois la possibilité de voter au sein même, de faire une seconde lecture au sein même de la même assemblée avec toujours pour cet article 25 une majorité abaissée si on n'avait pas retenu, si on n'avait pas eu la majorité renforcée, de passer au vote à l'article 24 ou de convoquer une seconde assemblée. Et puis, l'ordonnance d'octobre 2019 qui là est venue instituer la passerelle systématique 25-1-26-1 avec la simplicité sait. Donc il faut peut-être un peu lire 26,
je vais la lire.
Soit un peu plus intelligible.
On a observé quand même avec le temps et au fur et à mesure des réformes un abaissement progressif des règles de majorité.
Alors l'abaissement, il est conditionné aussi par l'absence de fréquentation des assemblées générales. C'est pour ça qu'on a mis en œuvre des votes par correspondance, la visio, enfin qu'on a essayé d'élargir les modalités de participation aux assemblées générales, mais il est clair que la volonté, c'est d'arriver. Alors, ça dévoie aussi un peu les majorités renforcées, quelque part, parce que pourquoi faire des majorités renforcées si on les abaisse systématiquement ? Mais voilà, c'est aussi un mode de contournement pour arriver à prendre des décisions.
Se pose la question des décisions démocratiques, etc.
Mais
on peut remonter loin dans l'abaissement des majorités, parce que vous m'arrêtez si je me trompe, mais même on peut remonter avant 65, en 1938, c'était un des gros défauts de la loi de 1938. Ensuite, les travaux d'amélioration, je crois, se votaient à l'unanimité. Donc on a un glissement progressif. Les travaux d'amélioration se votaient à la majorité de l'article 26. Maintenant, c'est la majorité de l'article 25. Et en plus, ils peuvent désormais bénéficier de la passerelle. Alors avant que vous nous disiez un petit mot, Mathieu, de la passerelle, je voudrais quand même, pour nos auditeurs, lire l'article 26-1. C'est difficile de connaître par cœur, mais on pourrait demander aux enfants, par exemple, de l'apprendre comme un poème. Lorsque l'Assemblée générale n'a pas décidé à la majorité prévue au premier alinéa de l'article 26, c'est-à-dire la majorité de l'article 26, normal. Mais, que le projet a au moins recueilli l'approbation de la moitié des membres du syndicat des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, et cela représentant au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires. Là, c'est pas la même base. De tous les copropriétaires, une double base. À ce moment-là, la même assemblée se prononce à la majorité des voix de tous les copropriétaires en procédant immédiatement à un second vote. Donc, on passe de l'article 26 à l'article 25. Un commentaire, Mathieu ?
Un commentaire. Je pense que si un observateur étranger veut comprendre un peu le système français et toute la complexité de réflexion des Français, il peut regarder le système des passerelles. Vous disiez pourquoi faire simple, mais c'est exactement ça, quoi. Le système des passerelles, c'est un truc qui est complètement incompréhensible est complètement incompréhensible par beaucoup de nos copropriétaires. Vous le disiez, on part du constat qu'il y a de moins en moins de copropriétaires et qu'il y a des décisions qu'on ne peut pas ne pas prendre, qui sont obligatoires. Par exemple, nommer un syndic. Ou même engager certains types de travaux. Enfin voilà, on est obligé de le faire maintenant. Donc plutôt que de baisser les conditions de majorité, on dit on va commencer par voter à une condition de majorité renforcée, mais si on ne l'a pas, ok, on va regarder si on est quand même suffisamment nombreux, et si on l'est, hop, on revote à une majorité plus simple. Et pourquoi pas directement définir la majorité simple à laquelle on va voter ?
Mais Mathieu, tu as raison, Mathieu, en disant que un observateur étranger, on est le seul pays, je crois, au monde à avoir des passerelles. Ça n'existe
pas. C'est parce qu'on est
des
gens sophistiqués.
Oui, un peu
des juristes sophistiqués.
Ça marche très bien. Le fonctionnement des immeubles, que vous alliez en Belgique ou en Allemagne ou en Suisse, ça fonctionne très très bien sans ce type de majorité. Alors, ça pose après le sujet de quelle typologie de majorité.
Oui, bien sûr.
Il faut savoir qu'après, notamment sur ces pays-là, on est basé. Alors, il y a des majorités renforcées, mais uniquement sur les présents et représentés. Et pas forcément sur l'ensemble des voix du syndicat. Donc, ça peut poser à terme, pourquoi pas. On sort d'une réforme. Je pense qu'on n'aura pas de réforme.
On va respirer un petit peu.
Mais du coup, c'est,
on va déjà apprendre l'article 26
avec Mathieu. C'est sur l'intérêt de la passerelle aujourd'hui.
D'autant qu'il y a quand même un élément supplémentaire. Donc l'ordonnance, la loi Elan et l'ordonnance avaient quand même comme objectif, notamment, de simplifier les prises de décision et de limiter le contentieux en copro. Quelque chose est arrivé qui est très positif, qui est plutôt positif, qui est le bulletin de vote par correspondance. Aujourd'hui, donc, pour être conforme dans la prise de décision, on doit, sur les bulletins de vote par correspondance, poser deux fois une même question à un copropriétaire. Une fois pour le vote à la majorité initiale.
En première lecture.
Une deuxième fois pour le vote à l'éventuel, après application éventuelle de la passerelle. Donc, un copropriétaire qui lit le formulaire se dit, mais il bégaye, ce syndic, il me pose deux fois la même question.
Il radote.
Et les gens ne comprennent pas. Alors, tant que les formulaires n'étaient pas complètement informatisés ou quand ils ne le sont pas, bah, souvent, ils répondent pas.
Ils me demandent de confirmer, comme quand on doit confirmer son mot de passe quand on crée un compte.
Ouais, voilà. Moi, pourquoi on me pose deux fois la question? Donc, j'ai répondu une fois, je ne réponds pas la deuxième fois. Voilà. Et enfin, on arrive à des situations ubuesques et il est vraiment urgent. Alors, effectivement, il n'y aura peut-être pas de réforme, mais la prochaine réforme, il ne faudra pas qu'on rate le coche, parce que là, je pense qu'on a un peu raté le coche, nous, profession, sur la rédaction de l'ordonnance. Il faut supprimer ce système de passerelle, quitte à rediscuter des majorités nécessaires, quitte à créer une majorité intermédiaire à 33% et plus de pour que de contre.
Pourquoi pas, oui.
J'en sais rien. Enfin, voilà, mais en tout cas, quelque chose de clair et d'immédiat.
Et puis, effectivement, ça réglera cette histoire de VPC. On en avait parlé lors de la dernière émission. En conclusion, parce qu'on va passer à la question suivante, il nous faut un choc de simplification pour les règles de majorité. Voilà. toujours dans cette séquence, le métier de syndic, on va parler de la fin du mandat de syndic et de cette pratique qui aujourd'hui, normalement, doit cesser avec les nouvelles règles de fin de mandat, enfin, en tout cas, les nouvelles règles de changement de syndic. La question, c'est est-ce que la question que je vous pose, le syndic sortant part avant la fin de l'Assemblée générale, c'est-à-dire qu'il n'est pas réélu, il se lève, il s'en va, le nouveau syndic prend sa place il s'assoit sur sa chaise encore chaude, hein, et il se met vraiment dans ses habits. Est-ce que c'est encore possible et surtout, est-ce que c'est encore légal compte tenu de ces nouvelles règles? C'est quoi ces règles? Pierre-Edouard, est-ce que vous voulez dire un mot? Est-ce que le syndic sortant peut partir en pleine séance?
Alors le texte issu de la réforme ne règle pas directement la question. Ce que le texte précise, c'est que le syndic l'est à minima jusqu'au lendemain de l'Assemblée générale. Alors, le texte n'est pas
un jour franc après la fin.
Un jour franc, oui, un jour franc, exactement. Mais le texte n'est pas parfait dans la mesure où il ne nous dit pas si l'Assemblée générale est convoquée et réunie le dernier jour du contrat, ce qu'il se passe. Parce que ça arrive aussi que le contrat du syndic soit échu le jour de l'Assemblée générale, voire qu'il soit échu avant. Et là, il est assez douteux que le syndic voit son contrat prorogé alors qu'en fait, il est échu. Ça, c'est une première difficulté du texte. La deuxième difficulté, c'est que le texte ne nous dit pas que le syndic doit nécessairement être là pendant l'AG. Et a priori, et même dans tous les cas, l'Assemblée générale peut décider de désigner une autre personne en tant que secrétaire de séance.
Si elle ne le fait pas et que le syndic n'est pas là, sachant que le syndic est secrétaire
si
de droit.
S'il est syndic au jour de l'Assemblée générale, ce qui suppose que son contrat ne soit pas échu, parce que sinon il ne l'est pas de droit, s'il l'est, il doit à ce moment-là finir l'Assemblée générale, puisque son mandat, et là ça n'est pas le texte de loi, c'est son contrat. Et donc, on va se référer au texte du décret type qui a défini le contrat type, qui prévoit sa présence pendant l'Assemblée générale, puisqu'il est noté que le syndic doit une tenue de l'Assemblée générale au copropriétaire. Et donc, sa tenue comprend le secrétariat. Et ainsi, même s'il n'est pas réélu, et donc il devient syndic sortant, il doit achever sa mission, son mandat, et donc rester jusqu'à la fin de l'Assemblée générale.
Indiqué dans le contrat.
Je crois... Après, les professionnels le diront certainement mieux, mais je pense que c'est aussi une manière de pacifier la relation. Et je pense que quand on est dans la peau d'un mandataire, d'un représentant, on a tout intérêt à exercer ses fonctions jusqu'au dernier moment, y compris pour l'image de sa profession et pour l'image de son propre cabinet. Ça, je pense que ce sera dit mieux que ça tout à l'heure. Ou différemment, si ça doit être combattu, parce que je sais qu'il y a certains syndics qui n'aiment pas cette pratique et l'idée de rester, parce qu'ils ont l'impression d'être un petit peu pendus par l'Assemblée générale, et c'est vrai que ça peut donner lieu à des situations très compliquées quand il y a des conflits avec les copropriétaires et beaucoup de reproches. Mais le fait d'avoir un confrère syndic dans la salle qui permet aussi de prendre le relais, d'avoir une transmission...
Mais alors, de la même manière, le futur syndic n'est pas encore syndic, est-ce qu'il peut être secrétaire ? Déjà, est-ce qu'il peut être à l'Assemblée? Et une fois qu'il est à l'Assemblée, est-ce qu'il peut
s'il est invité, d'abord, il doit pouvoir présenter son mandat. C'est le principe de la concurrence. La jurisprudence l'a rappelé plusieurs fois. Mais ça, c'est une présence ponctuelle au moment du vote. En dehors de cette présence ponctuelle pour se présenter, il peut être présent pendant l'Assemblée générale s'il a un mandat, mais il ne pourra le garder que... Alors, jusqu'à quand? C'est une des questions aussi. C'est jusqu'à son élection.
Jusqu'au
alors,
lendemain, enfin, jusqu'au début de son contrat.
Donc, jusqu'à la fin de l'Assemblée générale, si le contrat du syndic sortant n'est pas échu. Mais s'il n'y avait plus de syndic, que l'Assemblée générale est convoquée, à ce moment-là, il est élu immédiatement. Il prendrait ses fonctions immédiatement et devrait donc laisser son pouvoir et donc subdéléguer, s'il le peut, ou ne plus représenter la personne. On digresse un peu. Mais il pourrait être présent de cette manière-là, ou simplement, s'il était autorisé à participer, comme on le fait voter parfois pour les avocats ou pour un huissier en début de séance. Et dans ce cas-là, il pourrait assister à l'ensemble de l'Assemblée
de
générale.
Qui assure la police de l'Assemblée.
Je crois que,
de
bonne manière, c'est-à-dire que si le syndic présent est sortant et qu'il y a un nouveau syndic, il y a tout intérêt à ce que ce nouveau syndic puisse assister à l'Assemblée générale pour prendre les sujets, pour prendre au moins connaissance des sujets qui sont débattus et pouvoir faire après la liaison avec le syndic sortant.
On voit bien
un idéal.
Voilà, on voit bien qu'on est un peu à cheval entre le droit et les bonnes pratiques. Donc Marie-Hélène, donc la pratique, la tradition du syndic qui se fait sortir et qui se lève, qui s'en va, c'est fini.
Elle est tarie, celle-là, c'est terminé. Alors ça pouvait vraiment avoir un petit côté revanchard, pas très élégant et pas très, chic quand on avait vraiment des relations.
Oui, mais c'est de la copropriété, c'est chaud, c'est passionné,
voilà,
c'est
exactement. Des
AG, c'est tard le soir.
Moi, je suis quand même très, très favorable au fait de rester, de tenir l'Assemblée générale jusqu'au bout, y compris avant, parce qu'il y a quand même aussi, on a déjà une profession qui est suffisamment décriée pour porter ses couleurs, rester digne jusqu'au bout. Et je pense que le texte nous dit qu'on est syndic, enfin qu'on perd notre mandat au plus tôt un jour franc après l'Assemblée générale.
Bah, ça veut dire ce que ça veut dire.
Et que, voilà, ça, c'est clairement, on ne doit pas partir, on doit tenir l'Assemblée jusqu'au bout. Et du coup, toutes ces stratégies complètement rocambolesques de « on va aller tenir l'Assemblée au café du coin quand le syndic partira, s'il est toujours de rester… »
Parce que les copropriétaires ne peuvent pas rester dans mes bureaux.
Parce que c'est très corrélé au secrétariat de séance. Aussi, selon moi, le fait de que le syndic de droit ne soit plus que le syndic ne soit pas secrétaire de droit et faire élire quelqu'un d'autre, justement dans cette ancienne stratégie de ne pas le réélire, se vide un peu de son utilité. Et comme il y a toute une débauche de moyens électroniques, de VPC, etc., je pense que ça va dans l'intérêt des copropriétaires, très honnêtement. Et il faut un peu définir aussi les choses et faire preuve de pédagogie en début d'Assemblée générale en leur disant, écoutez, voilà, si vous ne réalisez pas, je resterai jusqu'au bout, donc restons dans la courtoisie.
Puis on conclut là-dessus, quitte à déplacer la question de la désignation du syndic à la fin
par exemple,
l'ordre du jour pour éviter un psychodrame.
Voilà, exactement.
Bon, voilà, alors en conclusion, il faut partir dignement, avec classe, avec élégance.
Essayons.
Plus facile à dire qu'à faire.
Certains
gestionnaires vont vous dire plus facile à dire qu'à faire.
Mais voilà.
Je vous remercie. Je propose qu'on passe à la séquence suivante, la question du copropriétaire, la deuxième.
Les As de la CoPro, la question du copropriétaire.
Bonjour, je m'appelle Sylvie, je fais partie du conseil syndical d'un petit immeuble d'une vingtaine d'appartements à Levallois-Perret. Et la question que je me pose concerne le rôle du conseil syndical dans la préparation de l'Assemblée générale annuelle. En fait, ce que j'aimerais comprendre, c'est quel est le rôle du conseil syndical et quel est le rôle du syndic en matière de préparation de l'Assemblée générale, c'est-à-dire au niveau de qui décide du lieu, par exemple, qui décide de la date de la réunion, qui décide de l'ordre du jour, comment ça se passe au niveau des comptes. Et du budget prévisionnel.
Alors, on a bien cerné la question, je la recentre un petit peu, Alexis. En gros, dans la phase de préparation d'Assemblée générale, et on va parler que de cette séquence-là, la phase de préparation de l'Assemblée générale, entre le syndic et le conseil syndical, qui fait quoi? Parce qu'il y a confusion, certains conseils syndicaux dépassent peut-être leurs prérogatives. Donc, rappelez la règle.
La règle, c'est que le syndic, c'est un mandataire légal. Donc, c'est lui qui représente le syndicat. Alors, évidemment, un immeuble ne fonctionne que s'il y a une bonne entente entre un syndic et le conseil syndical. Ça ne peut pas fonctionner autrement. C'est pas possible en termes de relations et puis de gestion. Le conseil syndical, il a un rôle de contrôle et d'assistance. Il ne se substitue pas au rôle et à la mission du syndic. Ça, c'est important. C'est-à-dire que ce qui a trait à l'ordre du jour, c'est le syndic qui rédige l'ordre du jour. Après, il est assisté par le conseil syndical.
On dit en concertation.
En concertation avec le conseil syndical, mais c'est le syndic. Ce sont des prérogatives du syndic. Encore une fois, au titre d'un mandat légal que l'on a depuis 1960.
En pratique, parce que ce que les gestionnaires peuvent se poser comme question, le syndic décide d'inscrire une résolution à l'ordre du jour, il consulte le conseil syndical sur ce projet d'ordre du jour, le conseil syndical dit « non, cette question-là, je veux vous la retirer ». Est-ce que le syndic est obligé de la retirer ?
Absolument pas, c'est le syndic qui décide de maintenir la question à l'ordre du jour.
Quitte à aller au rapport de force avec le conseil syndical.
Quitte à aller au rapport de force, mais encore une fois, le mandataire, c'est nous.
Pareil pour
la date, l'heure, la fixation de réunion. C'est pour ça qu'on la concertation, c'est qu'au fin de la concertation, c'est qu'on arrive à trouver une solution. C'est le principe de la concertation. Sinon, il n'y aura jamais de concertation et on ne pourra jamais avancer. Donc, pour répondre à cette dame, le conseil syndical, il peut être force de proposition. C'est tout l'objectif de cet organe, mais au final, c'est le syndic qui a presque le dernier mot sur...
C'est ça que je voulais vous entendre dire. C'est le syndic qui a le dernier mot en tant qu'auteur de la convocation et en tant que syndic, comme vous le dites, très justement, représentant légal du
syndicat. Parce qu'on en pose la responsabilité aussi et qu'on a un pouvoir et qu'on a un rôle d'information et de conseil. Et donc, il faut bien qu'on aille jusqu'au bout de ce rôle.
Le syndic et le gestionnaire doivent aussi bien faire attention aux mots qu'il choisit lorsqu'il consulte le conseil syndical. Mathieu, il ne doit pas dire au conseil syndical « Voici l'ordre du jour, merci de me le valider. »
Il faut une concertation, hein, le terme.
Je veux dire, merci de me faire part de vos suggestions.
Oui, mais il faut une vraie concertation. Mais cette concertation, elle est nécessaire pour que l'ensemble des copropriétaires comprennent pourquoi ces décisions sont proposées à l'Assemblée Générale. On a beaucoup de décisions qui sont parfois difficiles à prendre. Alors, surtout en ce moment, il y a beaucoup de décisions à venir dans les copropriétés et à venir quelquefois dans un avenir très proche qui vont être difficiles à prendre, des augmentations de budget avec l'explosion des prix, notamment de l'énergie, quelquefois des appels pour reconstituer en urgence une trésorerie parce qu'on n'arrive pas à payer la gardienne après avoir payé la facture de gaz. Il va y avoir des décisions très structurantes dans toutes les copros sur la rénovation énergétique. Si on ne prépare pas tout ça en concertation avec le conseil syndical qui va devoir prendre un peu de temps pour tout comprendre, pour échanger, pour qu'une pédagogie soit faite auprès des copropriétaires sur ces sujets difficiles, on n'y arrivera pas. Et c'est vraiment ce mot concertation qui est hyper important. Alors, dans certains cas, ça se passe bien, dans certains cas, ça ne se passe pas, mais c'est sûr que le syndic ne peut pas dire voilà les décisions à prendre, on les soumet à l'Assemblée Générale, vous n'avez pas votre mot à dire, ça ne marchera jamais. Autre point très important, l'une des missions du conseil syndical, c'est de donner son avis sur les décisions à prendre. Il peut le faire. Ça se fait de plus en plus.
Et oui, c'est l'article 21 de la loi 65 qui donne son avis.
Et puis l'article 11 du décret, je crois, qui dit quelles sont les informations à joindre à la convocation. Alors, souvent, le conseil syndical donne son avis en séance. Moins souvent, il donne son avis par écrit pour que cet avis soit joint à la convocation. Il faudrait que ce soit le cas de plus en plus. Pourquoi ? Je vais encore parler du bulletin de vote par correspondance. Beaucoup de copropriétaires, finalement, votent avant les débats en Assemblée Générale. Donc, ils votent sur la base des documents qui sont joints à la convocation.
Il faudrait une notice jointe à l'ordre du jour.
Je pense qu'une des missions du conseil syndical, c'est d'éclairer, ou en tout cas de donner un éclairage sur les raisons pour lesquelles on propose ces décisions. Cet éclairage, s'il vient que du syndic, il aura moins de poids que s'il vient d'autres copropriétaires d'un conseil syndical. Donc voilà.
Là, pour le coup, on met à contribution le conseil syndical. On lui demande de faire une notice explicative pour introduire chaque résolution. Mais
notice explicative, peut-être pas, mais au moins de donner son avis. Nous proposons de voter favorablement pour cette décision parce qu'après échange avec le syndic, avec instruction du dossier, on considère que c'est une bonne idée. Enfin voilà. voilà, qu'on accompagne, en fait, et c'est ce rôle de concertation, de coopération qui est fondamental.
Donc, pour répondre à notre, à la question de notre copropriétaire, qui fait quoi ? Le syndic et le conseil syndical œuvrent, mais c'est le syndic qui décide en dernier lieu. Il ne doit évidemment surtout pas oublier de consulter le conseil syndical, puisque sinon sa responsabilité civile serait mise en cause. Mais s'il y a un désaccord, in fine, entre le conseil syndical et le syndic sur une résolution, le lieu, la date, etc., c'est le syndic qui tranche, enfin qui décide en dernier lieu.
Avec une réserve toutefois sur le pouvoir du conseil syndical d'obliger le syndic à inscrire une résolution.
Oui.
Parce qu'autant le conseil syndical ne peut pas obliger le syndic à retirer une résolution qu'il a projetée, parce que c'est son rôle de représentant du syndicat, qu'il a effectivement un pouvoir d'initiative sur la rédaction de l'ordre du jour, mais le conseil syndical peut tout à fait obliger le syndic à inscrire
une
résolution.
Un peu comme n'importe quel copropriétaire.
Comme n'importe quel copropriétaire, absolument, mais le conseil syndical en particulier a cette prérogative, elle est prévue. Et si le syndic n'inscrit pas la question à l'ordre du jour, ou même s'il ne convoque pas l'Assemblée générale parce que le conseil syndical peut aussi obliger le syndic à le faire, le conseil syndical va pouvoir se substituer via son président et convoquer l'Assemblée générale.
Article 8 du décret que beaucoup connaissent.
Voilà, donc il y a quand même un pouvoir de contrainte qui ne concerne que des points particuliers, pas tout l'ordre du jour, pas dans tous les cas, mais le pouvoir du conseil syndical de contrainte n'est pas du tout nul. Il existe et il faut qu'il soit pris en compte parce qu'il est important sur certains sujets. Et il ne faut pas non plus oublier un pouvoir indirectement de contrainte, c'est celui qui est de donner son avis sur les mises en concurrence, parce que ça oblige le syndic préalablement à consulter le conseil syndical, d'une part, lorsque c'est obligatoire, et d'autre part, à mettre en concurrence et à recueillir l'avis du conseil syndical. Et l'article 11 prévoit que l'avis, dans ce cas-là, doit être joint à la convocation. Donc, il y a quand même des petits points de contrôle.
On a un article
et en
spécifique
même temps d'assistance,
également sur la
validation
de la préparation
du budget. Les deux participent finalement à ce contrôle et cette assistance du conseil qui contraignent le syndic. Donc, il ne faut pas négliger quand même cet aspect qui est très important, parce que s'il y a des contestations d'Assemblée générale, évidemment, ça peut affecter la validité des décisions adoptées.
Voilà. Alors, je rappelle quand même que l'article, je crois que c'est l'article 21, le conseil syndical, c'est toujours le même, c'est le conseil syndical assiste et contrôle le syndic. Hein, c'est pas l'inverse. Voilà. On est en tout cas, cet équilibre-là est toujours d'actualité, on le rappelle. Allez, dernière séquence, la séquence politique.
Les As de la CoPro, la séquence politique.
Séquence politique, on va commencer avec le registre d'immatriculation des copropriétés, le registre de l'ANA. Vous allez nous rappeler, Mathieu, rapidement ce que c'est. Non, le registre a été instauré par la loi Allure en 2014. Qu'il remplit, et surtout, c'est ça je voudrais dont on parle, quelles sont les informations qui doivent être versées par le syndic hein, ou l'administrateur judiciaire ou l'administrateur ad hoc. Et surtout, qu'est-ce qu'on en fait ? À quoi ça sert ? Parce que c'est quand même un travail important pour les syndics. Je rappelle juste rapidement ce que prévoit la loi Allure, les deux objectifs du registre, dans les grandes lignes. Faciliter la connaissance des pouvoirs publics sur l'état des copropriétés, premier objectif. Et deuxième objectif, faciliter la mise en œuvre par les pouvoirs publics des actions destinées à prévenir la survenance de leur dysfonctionnement. Donc, rapidement, quelles sont les informations qu'on doit verser ? Et surtout, derrière, l'ANA, qui est le teneur du registre, qu'est-ce qu'il en fait ? Qu'est-ce qu'il fait de toute cette data ?
Alors, c'est une vaste question, mais qu'est-ce qu'on en fait ? On n'en est pas encore tout à fait certain. L'état des lieux, c'est qu'effectivement, doivent s'inscrire à ce registre, s'immatriculer auprès de ce registre, tous les syndicats de copropriétaires d'habitation, c'est-à-dire dans lesquels il y a au moins un lot d'habitation. Voilà. Et effectivement, quand on s'inscrit, quand on demande une immatriculation, on doit transmettre de nombreuses informations, des informations qui vont permettre d'identifier l'immeuble, sa situation, son lieu de situation, la parcelle cadastrale sur laquelle il est implanté, des informations qui vont être des informations descriptives, finalement, le nombre de lots principaux, le nombre de lots de parking, le nombre de lots d'habitation, mais aussi le nombre de bâtiments, mais aussi les principaux équipements, combien il y a d'ascenseurs, est-ce qu'il y a un chauffage collectif, quelle est l'énergie, et puis d'autres informations très administratives sur les procédures éventuelles en cours. Est-ce qu'il y a un arrêté de mise en sécurité sur l'immeuble, est-ce que l'immeuble est sous administration judiciaire, enfin sous administration provisoire, et puis des informations financières, quel a été le montant des dépenses, quel est le niveau des impayés,
alors le montant des impayés, c'est à l'arrêté des comptes au 31 décembre.
Alors c'est à l'arrêté des comptes après répartition. Alors ça c'est un débat qui ne concerne pas forcément le registre.
Si on vient juste de faire un gros appel de fonds aux travaux.
Non mais c'est sûr. Après il faut fixer une règle. On se demande toujours pourquoi on indique le montant des impayés après répartition des comptes. C'est-à-dire si finalement on a dépensé plus qu'au budget, chaque copropriétaire va être débiteur après la répartition des dépenses. C'est pas parce qu'il est débiteur qu'il est en situation d'impayé. Donc effectivement, c'est la situation des sommes dues à la clôture de l'exercice, ce qui n'est pas forcément représentatif d'une situation financière, positive ou négative, quoi, difficile ou saine. Mais ça, c'est comme ça, c'est pas exclusif des données qu'on transmet.
Est-ce que ce serait intéressant de modifier le décret pour verser sur le registre le futur PPT? Parce que là, on a une photographie complète sur l'état du bâti
dégradations. Est-ce que les données actuelles suffisent au pouvoir public, finalement, pour mettre en œuvre, identifier et mettre en œuvre après les... Bon, ce qui est certain, c'est qu'il y a un effet très vertueux à ce registre. C'est que maintenant, on a un annuaire des copropriétés. On connaît le nom du syndic de la copropriété. Et ça, c'est hyper vertueux. Et au quotidien, ça aide.
Et l'ANA vient de rappeler que ces données ne devaient pas être exploitées à des fins commerciales.
Exactement. Au quotidien, c'est sympa pour identifier quel est le syndic de l'immeuble voisin quand il y a un problème d'infiltration entre les deux.
Beaucoup plus simple c'est de la gymnastique.
En ce qui concerne les politiques publiques, c'est certain quand même qu'ils ont accès à une photographie de grandes données sur les copropriétés. C'est-à-dire que les pouvoirs publics vont pouvoir suivre l'évolution des impayés. Alors, même si ce n'est pas forcément hyper représentatif, si on constate que les sommes dues à la clôture de l'exercice augmentent de 10% par an en moyenne, c'est quand même qu'il y a un sujet. Vont pouvoir, alors, normalement, suivre les étiquettes énergétiques de chacun des bâtiments de la copro, avec un petit bémol, c'est que cette donnée est facultative pour le moment. Donc, ça ne va pas forcément être très simple de suivre l'efficacité des travaux de rénovation énergétique qui vont être mis en œuvre, mais ça, ce sera peut-être corrigé. Il y a des informations, effectivement, comme je disais tout à l'heure, sur le nombre d'arrêtés de péril, enfin de mise en sécurité. En toute logique, ça donne quand même des informations extrêmement intéressantes. Après, est-ce qu'il faut aller plus loin ? Je prends un exemple sur l'obligation de mettre en place des répartiteurs ou des compteurs individuels quand il y a un chauffage collectif. On sait que c'est une obligation qui a du mal à prendre. On n'a pas l'obligation, quand on a un chauffage collectif, d'indiquer si oui ou non l'immeuble est doté de répartiteurs. Est-ce qu'il faudrait le faire ? J'en sais rien, en fait.
Qu'après, il n'y a plus de limite. On peut tout renseigner, verser le carnet d'entretien.
Donc j'ai envie de dire que c'est plutôt au pouvoir public de répondre à cette question. Est-ce que ça leur convient ? Est-ce que c'est en fait, on aimerait savoir ce qui est fait de ces données.
Est-ce qu'on voudrait savoir
si elles sont vraiment analysées.
Et quand est-ce qu'ils sortiront une analyse, en fait ? C'est ce qu'il faudrait demander au teneur du registre. Et à partir de quand Alors là, c'est bien, c'est qu'on a notre comptabilisation du nombre de copropriétés, du nombre d'immeubles. Donc par rapport aux 600 000 dont on parle, 600 ou 700 000 dont on parle depuis plusieurs dizaines d'années, là, on est un peu plus de 500 000. Donc ça, c'est idéal, c'est que ça comptabilise à la fois le nombre d'immeubles et le nombre de lots, ce qui est déjà pas mal. Mais ce qu'il faudrait surtout demander au teneur du registre, c'est à quand la première synthèse ou les premières études pour l'ensemble de la profession et pour les pouvoirs publics.
Oui, pour avoir une cartographie des copropriétés en France, notamment celles qui ont un syndic, celles qui n'ont pas de syndic du tout. Je parle de syndic bénévole, les copropriétés sans syndic.
C'est d'ordre public
beaucoup. Exactement, ou qui marche encore à la bonne franquette. En tout cas, l'outil est intéressant.
Ouais.
On le critique pas. La question, c'est de savoir en termes de volume d'informations, est-ce qu'on en met un peu plus, et surtout si on en met un peu plus, est-ce qu'on met des informations pertinentes.
Si je peux me permettre une dernière anecdote.
Oui.
Parce que ça permet certainement, ces données devraient permettre d'identifier les mesures à prendre. Ça peut permettre aussi d'identifier les mesures existantes qui ne servent strictement à rien. J'ai un exemple anecdotique. Si on regarde l'état statistique du registre, on s'aperçoit qu'à la clôture de l'exercice, on a à peu près 60 000 copropriétés identifiées dans lesquelles l'état des impayés est supérieur à 25% des sommes exigibles. Or, vous savez que dans ce cas-là, même un peu moins pour les plus gros immeubles, on a l'obligation de dans la loi de faire nommer un mandataire ad hoc.
Tout à fait. Pour la mission 29.1.
Voilà, article 29.1A, je crois. Oui. Voilà. Donc, c'est 60 000 copropriétés qui sont en situation de nommer un mandataire ad hoc. Combien de copropriétés en France sont sous mandat ad hoc aujourd'hui? 12. Voilà, donc. Je ne sais pas si ça peut permettre d'identifier les politiques à mettre en œuvre, mais celles qui ne servent à rien.
On pourra débattre sur la pertinence du mandataire ad hoc.
Et dernier point, je ne sais pas si c'est le lieu, mais juste un petit coup de chapeau aux équipes de l'ANA qui administrent le site, parce qu'il y a souvent beaucoup de complexité sur les identifiants, les connexions, etc. Ça génère de la complexité chez nous quand même, pour les syndics, qui n'est pas neutre. Et les équipes de l'ANA sont hyper disponibles et hyper efficaces dans la résolution et la réponse aux questions quand on est coincé. Et ça,
oui, puis ils ont réglé, pas partout. Ils ont réglé, tout à fait, puis ils ont réglé leurs problèmes informatiques. On ne reçoit plus les centaines de spams au premier jour du trimestre.
Prennent en compte nos remarques.
Quand c'est terminé, ils ont réglé, ils ont réglé ça.
Si tout pouvait se passer aussi bien, ce serait super.
Voilà, mais bon, après, comme on l'a dit, c'est nouveau, c'est la loi Allure, donc c'est une grosse machine, il faut que ça se fluidifie. Dernière question, et puis après, on se quitte. On est toujours dans la séquence politique. On va parler du CNTGI rapidement et surtout au sein du CNTGI de la commission de contrôle. Est-ce que c'est une commission disciplinaire, si c'est une question de commission, la commission de contrôle au sein du CNTGI, Pierre-Édouard, à quoi ça sert?
Malheureusement, aujourd'hui, ça ne sert à rien. D'abord parce qu'elle existe sur le papier, mais elle n'a pas été constituée, c'est-à-dire qu'on n'en connaît pas la composition, les membres n'ont pas été désignés, ce qui fait que cette commission ne peut pas se réunir, elle ne fonctionne pas. Donc aujourd'hui, de fait, elle ne sert à rien. Si demain, cette commission était composée de membres qui pourraient rendre des avis, son utilité serait... moindre que celle qu'elle aurait pu avoir avant la réforme qui est intervenue sur ce sujet, puisqu'aujourd'hui, cette commission n'est dotée d'aucun pouvoir propre de sanction. Ça veut dire que si elle peut être saisie des abus constatés par un consommateur, par un professionnel, et qu'elle peut rendre un avis, elle ne pourra pas directement sanctionner le professionnel, elle ne pourra que saisir le conseil lui-même, elle instruit un dossier pour savoir si oui ou non, en pratique, il y a abus. Et le cas échéant, elle peut saisir la chambre du conseil, Conseil national de la transaction et de la gestion immobilière, qui décidera si oui ou non, il convient de saisir la DGCCRF, c'est-à-dire l'organe de contrôle des pratiques concurrentielles et consommation.
Qui elle-même verra si elle s'est procurée.
Elle peut éventuellement sanctionner le syndic, mais son champ de contrôle est réduit par rapport à toutes les irrégularités, abus au sens large ou difficultés qu'on peut rencontrer dans la pratique, puisqu'elle a particulièrement
sur le contrat de syndic
pouvoir de contrôler la pratique commerciale du syndic, c'est-à-dire le respect des dispositions relatives au contrat et donc à la facturation. Ce qui fait qu'un certain nombre de sujets vont échapper au contrôle de la DGCCRF.
Tout ce qui est code de déontologie.
Des règles de déontologie, des règles de bonne application de la loi de 1965, de compétences.
Et les litiges entre professionnels.
Et des litiges entre professionnels, voilà. Effectivement.
De concurrence déloyale.
De concurrence, qui ne relèvent pas de la compétence de la DGCCRF et qui vont échapper également à toute sanction, puisque ça ne relève pas de la compétence du CNTGI, qui n'a aucun pouvoir disciplinaire. Donc il peut y avoir un avis rendu, mais qui sera absolument sans suite. Et encore faut-il, et donc ça restreint encore la commission, le pouvoir de la commission de contrôle elle-même, encore faut-il que la commission saisisse le conseil lui-même et que le conseil décide de transmettre, ce qui crée un autre filtre entre la commission et la DGCCRF. Et il y a donc tout lieu de penser que même si la commission était constituée, ça n'aboutirait pas en pratique à grand-chose.
D'autant plus qu'une fois qu'elle est constituée, encore faut-il qu'elle dispose de moyens pour instruire, imaginez, une centaine de dossiers. Il faut quand même du personnel, des juristes, un secrétariat, pouvoir payer des enquêteurs, pouvoir consulter, payer des avocats de consultation.
Absolument, et aujourd'hui, donc, on sait que le CNTGI n'est pas doté.
Donc, pour répondre à la question, la commission de contrôle actuellement ne sert à rien. De toute façon, vous l'avez dit clairement. Très clairement.
Bah, elle n'existe pas, donc...
Elle n'existe pas, elle n'existe que sur le papier. Les professionnels de l'immobilier...
Ça n'est pas une méchanceté de le dire.
Les professionnels de l'immobilier...
Elle n'existe pas, en fait, donc...
Les professionnels de l'immobilier, alors la réclame, mais bon, pas non plus avec des cris d'orfraie, hein, parce que, bon, je rappelle quand même que dans cette commission de contrôle, y siègent les consommateurs.
Ouais, ouais.
Parce que ça aussi, c'est problématique. Bah, oui, voilà, ça aussi, c'est problématique. Est-ce que moi, en tant que professionnel, j'accepte de me soumettre...
Personne n'est désigné.
5 représentants des pros et 5 représentants des associations de
consommateurs. Est-ce que moi, en tant que professionnel, je commets une erreur, c'est OK. Est-ce que j'accepte de me soumettre à l'autorité des consommateurs? Bah non, parce que, enfin, moi personnellement, non, je refuse. Autant un ordre professionnel avec uniquement nos pairs serait légitime, mais on part sur la question de l'ordre.
Oui, oui, on revient toujours un peu sur...
Avec un vrai pouvoir disciplinaire.
Mais dès lors que la commission n'est pas dotée de pouvoir disciplinaire, il est assez... finalement, peu important qu'il y ait des consommateurs, des professionnels, des tiers, des experts, des personnes qualifiées, puisqu'ils ne prononcent pas de sanctions. Donc on n'est pas sur une organisation de type ordinal, on est sur une commission d'évaluation de pratiques qui peuvent saisir éventuellement la DGCCRF. Mais ce qui fait qu'elle ne fonctionnera pas, parce que même si les personnes sont désignées, le consommateur ou le professionnel qui constate l'abus, il y a tout intérêt de saisir directement la DGCCRF, puisque c'est possible. Il n'y a aucun intérêt, à mon sens, de passer par une saisie la commission qui pourrait éventuellement saisir la DDPP. Autant saisir directement l'organisme compétent.
Pour moi, l'intérêt serait quand même de permettre aux professionnels de saisir la commission. Parce qu'aujourd'hui, le professionnel, s'il saisit la DDPP dans un litige avec un autre professionnel, la DDPP va lui dire « c'est pas mon sujet, moi mon sujet c'est les consommateurs ». Là ça pourrait être, alors même s'il n'y a pas de sanctions, ça pourrait quand même être...
La DDPP, oui, elle préfère être saisie directement par les associations de consommateurs que par un professionnel.
Oui, mais après, ce qu'on peut comprendre, enfin son rôle c'est justement peut-être pas de trancher les litiges entre professionnels. Mais ça pourrait être, ça pourrait quand même être l'embryon de non pas de décision, mais en tout cas... de directives ou d'avis sur certaines pratiques. Alors, pas comme le Gréco qui rend des avis, mais ça pourrait donner en fait certains guides ou certaines limites sur certains sujets.
Bon, en tout cas, là, il y a vraiment...
Enfin, voilà.
Il y a vraiment quelque chose à faire, en tout cas.
Avis,
on ne peut pas rester dans cette situation. Là, clairement, on ne peut pas rester dans cette situation avec... avec cette commission de contrôle telle qu'elle est définie, telle que les pouvoirs lui sont attribués. Et puis bon, de toute façon, aujourd'hui, on le rappelle, c'est un fantôme.
Si elle est dans les textes, ce serait bien qu'elle existe en vrai.
Exactement, c'est un fantôme. Et quelque part, il y a un peu méprise de la part des ministères qui sont censés, enfin du ministère, je crois que c'est un arrêté conjoint, ministère logement, chancellerie, etc., qui doit nommer les personnes qui doivent y siéger et ne pas le faire depuis 6 ans. Quelque part, il y a quand même un peu méprise des pouvoirs publics envers les professionnels. Bon, voilà, je terminerai là-dessus. Non, vous n'êtes pas d'accord, Pierre-Edouard ?
Je m'interroge, puisque je ne sais pas si je suis en désaccord. Comment dire ? Est-ce que les professionnels aujourd'hui, les représentants des professionnels, sont d'accord pour qu'il y ait une nomination des membres de la commission ? Peut-être, mais est-ce que c'est seulement la raison ?
Ils ont tous donné un nom. Hein. Chacun a donné le nom au ministère. Ils attendent plus que le décret de nomination. Hein.
Je ne sais pas.
Ouais, il pourrait y avoir une volonté un peu plus forte et un peu plus
exactement,
pressante,
exactement, hein. Exactement, ouais. Exactement, c'est ce qu'on disait. Bon, écoutez, merci beaucoup. On arrive au terme de cette émission. On a légèrement dépassé, mais bon, c'est passionnant. Je vous remercie pour vos contributions, votre expertise, Alexis de Coster. Je rappelle que vous êtes directeur métier syndic gestion locative Crédit Agricole Services Immobiliers. Pierre-Edouard Lagrelet, avocat au barreau de Paris et de Bordeaux. Marie-Hélène Leca, dirigeante cabinet Auralia Paris. Et Mathieu Mialaret, directeur métier syndic ADB, administrateur de biens gestion locative chez Foncia. Je vous remercie à tous.
Merci Gilles.
Merci Gilles.
Merci à nos auditeurs. Et puis on se retrouve pour la prochaine.
Avec plaisir.
Salut, ciao, bonne journée à tous.
Les As de la CoPro, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.